Bonjour les marcheuses et les marcheurs, bonjour les randonneuses et les randonneurs en ce samedi matin 10h. Bienvenue dans votre nouvelle émission, je marche, donc je suis. Nous voilà embarqués pour une demi-heure de chronique à la fois écolo, patrimoniale, environnementale, bien sûr culturelle, mais également sportive. Sur ces terres, des pierres qui roulent, qui vous donnent sans doute envie de courir, voire de voler, nous allons nous limiter à marcher, mais d'un bon pas, pour justement essayer de trouver satisfaction. Vous en avez maintenant l'habitude, nous débutons toujours notre chronique par la citation d'un auteur célèbre. Aujourd'hui, un monument de la littérature française, à la santé fragile, diminuée par un asthme gravissime, et donc qui ne s'est pas distingué par ses performances physiques. Vous avez deviné ? Marcel Proust, bien sûr. À défaut de performances sur le terrain, il n'avait pas son pareil pour délivrer ses réflexions sur le temps et la mémoire affective, mais aussi sur les voyages et les découvertes, qu'il n'avait d'ailleurs bien souvent pas réalisées. Marcel Proust disait « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. » Ce n'est pas la réflexion d'un marcheur, mais elle n'en est pas moins profonde et adaptée à notre sport préféré, la randonnée.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
Aujourd'hui, dans les conseils d'usage, je voudrais évoquer le problème du franchissement d'une route à forte circulation. On doit utiliser pour cela la technique du drapeau. Elle est simple, malheureusement pas toujours connue des randonneurs, ni souvent mise en application, et pourtant, c'est le moyen le plus sûr. En fait, lors d'une randonnée, quand vous avez à franchir une voie très passante, il peut y avoir un passage piéton, auquel cas, pas de problème, chacun franchit la chaussée en sécurité. Mais bien souvent dans la campagne, il n'y a pas de passage piéton. Il faut donc que le groupe, que vous soyez 5, 15 ou 30, respecte cette procédure. Arrivé devant la route à traverser, chacun s'aligne le long du bas-côté. Quand tout le monde est installé, après avoir vérifié bien sûr que la voie est libre, le responsable déclenche alors la traversée. À ce moment-là, tout le monde traverse comme un seul homme. L'avantage de cette formule, c'est que même un groupe de 40 ou 50 personnes traverse une route à moins de 5 secondes. Autre petit conseil, pour cheminer sur une route, cela peut arriver, il est indispensable que l'animateur qui mène l'ensemble du groupe et le serre-fil endosse un gilet réfléchissant de façon à ce que la troupe soit bien mieux perçue par les automobilistes et éviter ainsi un éventuel accident.
Vous êtes bien sur Radio FM Plus et vous écoutez « Je marche, donc je suis ». I'm not trying to have another conversation.
Probably not gonna wanna play me on your station. Après les conseils, des infos pratiques sur l'état des parcours. En tant qu'usager des sentiers et des milieux naturels, devenez acteur en signalant toutes les anomalies rencontrées lors de vos randonnées. Aujourd'hui, l'info est sur une randonnée, proposée d'ailleurs par Randonnée Cévenoles, avec le passage au hameau de La Botte, à côté de Vissec. Il est désormais interdit, ainsi que le parcours dans le lit de la Vis. Donc, pour les parcours Navacelle-Vissec, il est possible, bien sûr, de les faire, mais ils imposent d'emprunter la route durant plus de 10 minutes.
Je marche, donc je suis. sur Radio FM+.
La bonne forme. Lors de la première chronique, j'avais évoqué la nécessité d'être en bonne forme et de bien connaître ses capacités physiques pour affronter les randonnées. Cela s'adressait principalement aux nouveaux impétrants venant se frotter aux réalités du terrain. Je reviens aujourd'hui sur ces principes pour évoquer la condition physique, mais de tous les pratiquants. Pour vérifier sa condition physique, l'on va sur le terrain et l'on se teste. Mais comment vérifier une amélioration de sa condition ou au contraire, une glissade de ses capacités sous le poids des ans? En fait, il n'existe qu'un moyen de vérifier son état, c'est la VO2. En clair, la mesure de la consommation maximale d'oxygène qui permet d'évaluer sa capacité aérobie et donc son niveau de condition physique. Mais me direz-vous, que m'apportera de plus de savoir le volume d'oxygène que mon corps utilise par minute pour produire de l'énergie pendant l'exercice? Eh bien, le praticien qui vous aura fait passer votre test d'effort vous donnera des infos sur votre forme physique, effectivement, mais pas sur vos capacités réelles à faire face à certains types de dénivelés. Cette mesure n'a en fait qu'un intérêt, c'est de pouvoir la comparer dans le temps à de nouvelles mesures pour vérifier les écarts positifs ou négatifs. C'est de cela dont nous avons besoin. Vérifier si nous sommes capables de faire plus et mieux et, en prenant de l'âge, contrôler le maintien de nos capacités physiques. En dehors de ces tests d'effort qui sont assez lourds, il est cependant possible de vérifier votre forme à partir d'un test que vous pouvez réaliser vous-même. Je vous soumets pour cela une mesure certes empirique, mais facile à mettre en pratique. Pour surveiller dans le temps votre condition physique, il vous suffira sur un terrain plat, toujours le même, une piste, voire une route, de courir, marcher pour ceux qui ne le peuvent, le plus vite possible et le plus loin possible durant 12 minutes. Si 12 minutes représentent un effort trop intense, limitez-vous à 6 minutes. Vous renouvelez ainsi l'exercice selon la périodicité qui vous convient. Ainsi, en considérant chaque fois la distance parcourue, vous aurez une idée de votre état de forme. Si vous faites mieux chaque fois, c'est parfait. Par contre, si vos performances baissent, il faudra essayer de contrecarrer ce résultat en s'engageant sur plus d'activités. Maintenir une VO2 plus élevée permet de disposer d'une bonne capacité d'endurance. Votre corps utilisant efficacement l'oxygène pour produire de l'énergie via le métabolisme aérobie. Mais que se passe-t-il quand le seuil aérobie est atteint? On s'arrête? Pas exactement, car intervient alors le processus anaérobie. Lorsque l'effort dépasse la capacité aérobie, c'est-à-dire lorsque la VO2 n'est plus suffisante pour répondre aux besoins énergétiques, le corps commence à produire de l'énergie par voie anaérobie, ce qui génère de l'acide lactique pour mieux oxygéner les cellules et booster la production de glucose. Mais si l'acide lactique fait partie intégrante du corps humain en contribuant à la respiration cellulaire, à la production de glucose et à la signalisation moléculaire, il peut aussi jouer de vilains tours. C'est un peu à la fois un Dr Jekyll et Mr Hyde du métabolisme. Dr Jekyll, quand au cours de l'effort, il vient jouer un rôle positif afin de métaboliser le glucose et permettre une bonne oxygénation du muscle. Mais si l'effort devient trop intense ou après un niveau d'activité élevé, l'acide lactique se transforme en Mr Hyde, pouvant provoquer des sensations de brûlure, des crampes, de la fatigue musculaire. Il n'est pas responsable des courbatures, mais il est alors indispensable de l'éliminer. Vous l'avez compris, l'équilibre de l'acide lactique est crucial. Une production insuffisante va limiter les performances et la récupération, mais une accumulation excessive peut entraîner des effets secondaires néfastes.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almaric.
Il faut donc un entraînement approprié. En résumé de cette complémentarité entre système aérobie et système anaérobie, voici donc quelques conseils. Premièrement, avant l'effort, je le répète, il faut disposer d'une condition physique générale adaptée grâce à un entraînement approprié. Cela renforcera votre capacité à tolérer l'acide lactique. Il faut bien sûr s'hydrater, buvez suffisamment d'eau et d'électrolytes pour préparer votre corps. Une bonne hydratation aide à réguler les niveaux d'acide lactique. L'alimentation est très importante. Consommez un repas ou une collation riche en glucides complexes quelques heures avant l'effort. Cela garantira que vos réserves de glycogène sont pleines, prêtes à fournir l'énergie nécessaire pour les efforts plus intenses. Et bien sûr, il faut s'échauffer, réaliser un échauffement adapté. Cela augmentera la circulation sanguine vers les muscles et préparera le corps à gérer l'accumulation d'acide lactique. Ensuite, pendant l'effort, il faut contrôler l'intensité de l'effort. Donc maintenir un rythme adapté à votre niveau de forme physique. Évitez de commencer trop vite pour permettre à votre corps de s'adapter progressivement à l'effort que vous allez lui imposer. Ensuite, pratiquez une récupération active. Lors des pauses, si possible, faites des exercices légers. Cela permettra de réduire l'accumulation d'acide lactique. Bien sûr, pendant la marche, pensez à une respiration efficace. Pratiquez une respiration contrôlée pour maximiser l'apport en oxygène, ce qui aide à atténuer la production d'acide lactique pendant les efforts intenses. Bien sûr, il faut rester en alerte en surveillant les signaux de votre corps. Écoutez votre corps et ajustez votre intensité. Si vous ressentez une accumulation excessive de fatigue ou des douleurs musculaires. Vous pouvez également surveiller votre rythme cardiaque. Arrêtez-vous si vous atteignez le seuil qui vous a été indiqué à ne pas dépasser. Et après l'effort ? Après l'effort, il faut procéder là, bien sûr, à une récupération active. Faites des étirements doux ou une marche modérée pour favoriser la circulation sanguine et éliminer l'acide lactique. Bien sûr, continuez l'hydratation post-exercice. Donc, buvez de l'eau et des boissons électrolytiques pour réhydrater votre corps et faciliter l'élimination des déchets métaboliques. En ce qui concerne la nutrition, essayez de consommer un mélange de glucides et de protéines dans les 2 heures suivant l'exercice pour aider à reconstituer les réserves de glycogène et à soutenir la récupération musculaire. Enfin, pratiquez des étirements et de la relaxation. Les étirements vont permettre de relâcher les muscles et de favoriser la circulation, ce qui aidera à réduire l'inconfort lié à l'accumulation d'acide lactique.
Vous êtes bien sur Radio FM+, et vous écoutez « Je marche, donc je suis ». I'm not trying to have another conversation.
Probably not gonna wanna play me on your station. Voilà donc quelques conseils basiques pour gérer vos randonnées dans les meilleures conditions. Par contre, si au-delà d'une fatigue naturelle, vous ressentez des douleurs musculaires élevées ou des crampes, et cela de façon récurrente, il sera alors nécessaire de consulter un spécialiste, un médecin du sport par exemple, pour déterminer l'origine de ces douleurs et y remédier. Radio FM+, Robert Amalric, votre émission « Je marche donc je suis », deuxième partie. Le contexte était bien différent, mais comme vous venez de l'entendre, on peut être un héros juste pour une journée. Chanson de David Bowie, « Heroes ». Nous enchaînons donc avec nos héros du jour, Thierry Guillaume et Bernard Omachaud, qui sont tous les deux responsables des randonnées à LSR 34, c'est bien ça, LSR 34.
Tout à fait, ça veut dire loisirs et solidarité des retraités.
Voilà, donc Guillaume, vous allez nous expliquer un peu tout ce que vous faites dans cette association.
Alors, c'est une association qui a été créée en 1985 et qui avait pour but d'éviter l'isolement des retraités. Donc, elle a été créée pour les retraités de la CGT-PTT. Et aujourd'hui, elle est ouverte à tout le monde puisqu'elle touche toutes les professions. Et elle propose diverses activités.
Oui.
Alors, il y a trois commissions chez nous, la commission voyage, la commission culture et la commission randonnée, dont avec Bernard, nous
vous
occupons.
Vous en êtes les responsables.
Donc, c'est une association qui regroupe à l'heure actuelle dans les 240 adhérents.
Oui.
Et voilà, qui participe aux diverses commissions.
Oui. Vous pouvez nous donner peut-être une petite vue sur les deux autres commissions.
Alors, la commission voyage qui organise tous les ans deux ou trois séjours, soit un séjour randonnée, soit un séjour à l'étranger. Exemple, l'année dernière, Et il y a eu un séjour d'une semaine dans les Pouilles en Italie, une semaine de randonnée dans le Jura et une autre dans l'Ardèche.
Voilà.
Trois séjours.
Et donc, pour la culture, vous avez comme
Alors, la culture, c'est très, très vaste. Il y a la visite des musées, l'Odève, la Vérune, Musée Fabre. Il y a des sorties qui peuvent aller assez loin. Je pense à Marseille, la grotte Cosquer et le Muséum.
Oui.
Et puis, c'est un peu à l'initiative aussi des bénévoles qui proposent selon leur activité.
Bien sûr.
On a un adhérent qui a fait une conférence sur les papillons, une autre qui a fait une conférence sur les champignons, voilà.
Ouais. Donc c'est assez varié. Et donc tous les deux, vous occupez de la commission randonnée qui, je pense, est très active.
Alors la commission randonnée, elle propose quatre types de randonnées.
Des niveaux différents, donc.
De niveaux différents. Ça va de la balade de 4 km le mardi après-midi.
C'est une marche, là, donc.
Là, c'est plus une promenade, voilà. C'est ouais. Pour les plus anciens d'entre nous, quoi. Voilà.
Ouais.
Puis il y a le mardi classique qui se tourne autour de 10-12 km.
Oui.
Avec un dénivelé de jusqu'à 300 mètres. Et on a, ça, c'est à la journée. Et on a le vendredi qui est un peu plus soutenu. Ça peut aller jusqu'à 17 km.
Oui.
Et 700 mètres de dénivelé, quoi.
Oui, pour les personnes qui sont en bonne condition physique. Et donc, les déplacements pour aller sur les lieux de randonnée se font en covoiturage ?
Alors, on a trois parkings. On utilise trois parkings de rendez-vous pour les covoiturages. Mais on peut y aller directement selon d'où on vient, si on vient des villages extérieurs de Montpellier ou pas.
Oui. Donc, une relative facilité, les mardis ou le vendredi, pour ceux qui ont plus d'énergie, on va dire, pour faire de belles randonnées, avec du dénivelé et entre 15 et 20 km. Bien, donc Bernard, maintenant, est-ce qu'on peut parler d'une de ces randonnées ou de quelques randonnées, de la particularité des randonnées que vous faites ?
Eh bien, on peut en parler, bien sûr, avec plaisir. Alors, on est à Montpellier, donc on va plutôt cibler autour de Montpellier. Il y a beaucoup, beaucoup de sentiers de randonnées pédestres dans la région qui peuvent être balisés par différentes instances ou pas. Avec une carte, on arrive à créer des circuits
bien sûr.
Sans qu'ils soient nécessairement balisés.
Oui.
Je pourrais par exemple vous parler d'une randonnée qu'on a faite dernièrement du côté de Saint-Guilhem-le-Désert,
oui.
Sur un endroit qui s'appelle la plaine de l'Estagnol. Alors l'Estagnol, c'est un nom de la région, hein. Alors je ne sais plus sa signification, mais vous la trouverez. C'est une ruine qui est en cours de restauration. Ce qui est une bonne chose, et qui donc se trouve au-dessus de l'Hérault, pas très loin donc de Saint-Guilhem, juste après Saint-Guilhem-le-Désert. Donc on y va comme d'habitude en covoiturage, ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, et on démarre d'un parking qui se trouve à côté du barrage de Belbézé. Alors, les gens du coin connaissent sans doute.
Oui, bien sûr.
On l'appelle parfois le premier barrage.
Oui.
Voilà. Donc, on garde les voitures là et puis on attaque un premier raidillon parce que comme on est au bord de la rivière et qu'en général, on se promène sur l'Écosse, nécessairement, il va y avoir du dénivelé. Donc, on attaque un bon petit raidillon pour grimper dans la combe de la Bugadière. Bugadière, c'est les lavandières.
Les lavandières,
exactement.
Voilà.
En occitan. Et donc, quand on arrive en haut de la combe, eh bien, on change de paysage. Hein. On était dans une combe avec des restanques, hein, donc des terrasses. Et tout d'un coup, on se retrouve sur une zone plane, la plaine de l'Estagnol,
oui.
Qui, à l'époque où la ferme de l'Estagnol était en activité, devait servir pour la culture des oliviers, peut-être, pour le pâturage.
Le pâturage, il devait y avoir des pacages, effectivement, pour les animaux.
Et voilà, on traverse cette plaine. Alors, il y a quelques points d'intérêt sur cette plaine, à part les... Donc, en plus des maisons qui sont
en restauration,
merci. Il y a des anciennes... des citernes creusées dans le sol, puisque là-haut, évidemment, il n'y avait pas d'eau.
Ils avaient besoin d'eau à certaines périodes, c'est certain.
Alors, c'est frustrant, parce qu'elle est juste en dessous, dans l'Hérault. Mais pour la faire remonter là-haut, c'est pas con. C'est assez difficile.
À l'époque, il n'y avait pas de pompe.
Exactement. Du coup, il fallait créer des points d'eau sur place. Alors, c'était souvent des citernes, à la fois puits et citernes. C'est-à-dire, il y avait un petit ruissellement qu'on captait. Et en plus, on captait l'eau de pluie. Voilà.
Oui.
Donc ça, c'est assez joli à voir quand on passe à côté. Et puis donc, on traverse la plaine de l'Estagnol. On laisse de côté le sentier qui monte au roc de la Vigne. Ça, c'est une autre histoire.
Oui.
On en parlera une autre fois, si vous voulez. Et on redescend de la plaine de l'Estagnol par un petit sentier assez raide, mais cette fois-ci en descente, qui descend la Combe-les-Jaux. Et puis on passe le Talvec de la Combe-les-Jaux. Dans le Talvec, c'est le petit vallon asséché. Hein.
Oui.
Et on remonte de l'autre côté du Talvec vers une autre ruine qui s'appelle le Mas de l'Arbousier, avec deux S. Bon, pourquoi ? Normalement, ça devrait être l'Arbousier.
C'est l'Arbousier, mais... si on fait référence au végétal.
Voilà, alors soit c'est encore une déformation, comme il y en a beaucoup dans la région, hein, des noms locaux, soit c'est peut-être ce nom, ce vrai nom. Bon, bref, peu importe. On arrive dans cette ruine. On peut s'y arrêter quelques minutes parce qu'on aperçoit, mélangé avec la végétation qui a repoussé, on aperçoit des intérieurs de maisons et on peut imaginer ce qu'était la vie dans une...
Du siècle dernier. Il y a quelques siècles.
Oui, dans un endroit un petit peu isolé, même très isolé. Hein, donc ça fait... Voilà, c'est un petit salut aux anciens. On quitte l'Arbousier, on continue à monter vers la Combe de la Blande, et là, on va jusqu'à un grand lapiaz. Alors, un lapiaz, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un pierrier, en fait, calcaire,
oui.
Qui est assez impressionnant, parfois, puisque ça peut couvrir des centaines de mètres carrés. Donc là, sur ce lapiaz, ben, c'est un... qui est semi-ombragé, c'est l'occasion de faire une halte déjeuner, par exemple. Hein, donc, sortie du sac.
Au milieu de la randonnée, voilà, pour se reposer un peu des efforts déjà pratiqués.
Oui, c'est important. Et d'autant qu'à côté de ce lapiaz ou lapier, hein, ils disent lapier, puisque c'est un nom qui vient d'ailleurs, de notre région, il y a une grotte qui s'appelle la grotte de la Baume-Cellier, qui est assez connue des gens du coin, qui a été utilisée sans doute comme cave à fromage ou comme lieu de refuge, parce qu'il y a un vestige de mur à l'entrée qui ferme la grotte. Un peu comme la Baume de l'Olivier, par ailleurs. Voilà, donc avec une petite lampe de poche, on peut visiter cette grotte.
Elle est très grande et très profonde.
Et profonde.
Oui, absolument. Elle fait 160 mètres de développement de mémoire à peu près.
Et accessible surtout, c'est pas de la spéléologie.
Et accessible. Bon, il faut quand même faire attention parce que c'est un peu glissant. Hein, voilà.
Et il faut de préférence un éclairage quand même.
Et il faut un petit éclairage, une petite lampe frontale. C'est toujours bien d'avoir les mains libres, hein. Donc il vaut mieux toujours un éclairage frontal.
Une front plane, c'est plus sécurisant.
Oui, absolument. Voilà, et puis on continue si vous voulez ou...
Eh bien, on finit le parcours, on descend ensuite...
Alors, on redescend, on revient un petit peu sur nos pas, on laisse de côté le sentier qui va vers la Baume Charlotte et la Baume de l'Olivier. Donc, on continue à descendre, on rejoint la Combe de Malafosse, celle où se jette le ruisseau du Sergent, encore un haut lieu de la région.
Exactement.
Hein, voilà. Et on se retrouve sur la route départementale 4, là, qu'on a remonté sur quelques centaines de mètres, pour se retrouver au parking.
Au parking.
Voilà.
Et c'est terminé. Les voitures.
Et on est content, et on change les chaussures, et voilà.
Et donc, en gros, quel dénivelé, quelle durée de parcours à peu près ?
Alors, celui que je vous ai décrit, il fait à peu près, il n'est pas très long, il fait à peu près 8 km.
Oui. Hein.
Mais on peut faire facilement...
On peut rallonger sans problème.
Absolument, en faisant des oreilles, comme on dit dans le jargon. Ouais. Hein, on rajoute un petit tour là, sur un sentier adjacent. Et donc on peut aller comme ça jusqu'à 14, 15 km. Hein. On peut même monter au Roc de la Vigne, mais c'est une autre histoire. Et puis en dénivelé, là, on avait 400 mètres à peu près de dénivelé.
400 mètres environ.
400 mètres, voilà. Oui, oui. Parce qu'il faut monter sur le corps, se redescendre, etc. Voilà.
Eh bien, merci pour, ce, pour cette visite là, orchestrée donc, du côté de Saint-Guilhem-le-Désert. Donc, merci Thierry, merci Bernard. Radio FM+, notre chronique hebdomadaire numéro 5. Je marche donc, je suis, se termine. Vous avez le podcast à disposition sur le site de la radio par l'intermédiaire, par l'adresse radiofmplus.org. Vous pouvez, à partir du podcast, laisser vos commentaires, conseils ou propositions pour améliorer cette chronique qui se structure. Vous pouvez également envoyer directement un mail à contact@radiofmplus, toujours en minuscule et tout attaché.com. Et on se quitte avec une chanson proposée par nos invités. Il s'agit d'Alan Parsons Project. Bye bye, à la semaine prochaine, 10h.